Du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Coq à l'âne. Alors, c'est le numéro 751. Alors, autour de la table, Laetitia Allemand.
Bonjour.
Bonjour, Laetitia. Nous avons Bruno André qui est là.
Bonsoir à tous.
Nous avons Michel Roussel.
Bonsoir.
Nous avons Jean-Claude Hérault.
Bonsoir.
Et nous avons Jean-Michel Arnaud.
Bonsoir.
Voilà, c'est une jolie tablée, hein, vous avez vu. Alors, le mois dernier, nous étions à Briançon où nous recevions Pierre Chamagne. Ancien maire de Pelvoux, je suppose que Jean-Michel, tu connais Pierre Chamagne.
Oui.
Voilà, et aujourd'hui à la tête d'une association qui s'appelle VVCS, Vivre sa vie chez soi, qui permet aux personnes donc de finir leur jour chez eux, hein, comme l'indique cette association. Autre lieu où l'on œuvre pour accueillir d'autres personnes en fin de vie, donc le Sénat, avec son représentant dans les Hauts-de-la, j'aime beaucoup, c'est la tête de Jean-Michel, Jean-Michel Arnaud. Je savais que ça te ferait plaisir de présenter le Sénat comme une EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cela dit, toute plaisanterie mise à part, Jean-Michel, ce fut quand même, à une époque, une concentration du troisième âge. Mais visiblement, ça a bien évolué. Aujourd'hui, enfin, depuis pas mal d'années, la preuve, depuis 2023, la moyenne d'âge est passée sous la barre des 60 ans. Voilà, c'est pas mal. Il y a plus de femmes aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc c'est bien, ça s'équilibre. Alors, on va voir si vous êtes toujours aussi bon. J'espère que vous avez travaillé votre sujet. Qui est la Benjamine du Sénat ? Ah, oui, c'est une Benjamine.
C'est une sénatrice Europe Écologie des Verts.
C'est une... oui, absolument. Tout à fait. Mais bravo. Tu n'as pas son nom.
Non, des Français de l'étranger, peut-être non.
Mathilde Olivier, nouvellement élue. Enfin, il n'y a pas de... Elle a 29 ans et 3 mois. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des vieux. Bah, Jean-Michel, déjà...
Je suis en dessous de la moyenne, hein, largement.
T'es largement en dessous. Le doyen, qui est le doyen ?
Le doyen est Jean-Marie Vandenberg.
Absolument, 84 ans et 5 mois. À titre de comparaison, il faut savoir que les députés de l'Assemblée nationale avaient 48 ans et demi de moyenne lors de l'élection en juin 2022. Donc là, on est...
Et le doyen a une particularité, c'est qu'il siège avec sa fille.
Ah, qui est élue aussi.
Qui vient d'être élue sénatrice des Hauts-de-Seine.
Alors, on a encore l'image d'une vieille assemblée, Jean-Michel ? Non, on peut
non,
le dire.
Non, non, par son mode de scrutin en fait. Puisqu'une grande partie des sénateurs sont élus à la proportionnelle, à la différence de l'Assemblée nationale. Et donc on a un poids plus conséquent des partis politiques dans la formation des listes dans les zones urbaines. Et donc l'apparition d'une nouvelle génération d'élus plutôt issus des appareils politiques que de l'expérience de terrain. Mmh. Alors que dans les départements ruraux comme le nôtre, devenir sénateur, chacun l'appréciera parce que c'est toujours difficile de juger un parcours dans lequel on a mis ses propres pas, mais nécessite un peu de l'expérience et de l'enracinement. On ne devient pas sénateur comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, dès lors qu'on a l'appareil politique derrière, d'être élu sénateur de Paris ou du Pas-de-Calais, qui envoie plus de 10 sénateurs à la Haute Assemblée. Et avec 9-10% des voix, vous êtes sénateur.
Et oui.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait cette fameuse expression dans le temps, tu te souviens, c'est un train de sénateur.
Oui, alors c'était pas le train des Hautes-Alpes, parce qu'à autrement on n'y serait jamais arrivé. Mais, oui, il y avait cette dimension-là. Après, la vérité, c'est que le Sénat est probablement l'assemblée la plus représentative aujourd'hui des deux assemblées qui forment le Parlement, politiquement, puisqu'on a 8 groupes.
Ouais.
Des non-inscrits qui représentent le Rassemblement National, 3 élus, 4 presque, puisqu'il y a également un reconquête, un élu d'ailleurs de la région sud et originaire de Tallard, pour la petite histoire, monsieur Ravier. Famille d'immigrés italiens venu s'installer à Tallard et dont un des fils ou un des petits-fils est aujourd'hui marseillais et élu reconquête de Marseille. Et vous avez tout le spectre politique, y compris le spectre un peu préhistorique, puisqu'on a encore un groupe RDSE, un groupe de radicaux, ce qui n'existe plus dans l'Assemblée nationale depuis longtemps, puisque le plus connu des radicaux des Hautes-Alpes, un dénommé Joël Giraud, je crois,
certains députés,
siège est apparenté au groupe Renaissance. Donc vous voyez, on a vraiment cette partie historique, mais une grande représentation de la vie politique française.
Et d'ailleurs, dans un article de La Provence de ce matin, Joël Giraud explique qu'il est toujours au Parti radical quand même.
Absolument.
Il a assimilé Renaissance, mais ils tiennent, parce qu'il n'est pas le seul, ils tiennent à leur indépendance par rapport à Renaissance. Mmh. Et il s'exprime d'une façon un peu surprenante, puisqu'il, alors que moi je pensais qu'il était macroniste à fond la caisse, il exprime beaucoup de questions sur le macronisme actuellement, et il s'interroge beaucoup, voilà. Puis il a aussi rendu un rapport sur la montagne qui est fort intéressant.
Mes cocaliens, allez, on va voir si vous avez un peu révisé. Combien de sénateurs ?
348.
Bien. La durée du mandat ?
6 ans, je crois.
6 ans.
Oui, oui.
6 ans, oui.
Renouvelable par moitié.
Tous les donc 3 mois, la prochaine fois, tu es renouvelable.
Exactement, 2026, 2032, mm-hmm. 2038... 2000 bon,
on va s'arrêter là.
Non, oui. je me prenais pour un grand élu des Hautes-Alpes.
Quel homme politique a voulu faire disparaître le Sénat ?
De Gaulle.
Qui a dit ?
Je pense que c'est De Gaulle, oui.
Bah, parle bien, Michel.
De Gaulle, il a raison, oui. Michel.
Ah, pas que.
Ouais.
Lionel Jospin.
Oui, mais le premier, ça reste.
C'est d'aller plus loin, puisque.
Il a parlé de machin.
Oui, Charles de Gaulle a même fait un référendum qui visait quasiment la suppression du Sénat. Et c'est sur ce référendum en 69, et il a été mis en minorité, et c'est à partir de là qu'il a décidé de partir.
Et dans la réforme de
je crois que la réponse n'était pas de savoir, les Français n'ont pas répondu à la fin du Sénat.
C'était la régionalisation, et il y avait le Sénat d'autre part.
Mmh. Et dans la réforme constitutionnelle de Sarko, là, quand il voulait faire sauter le département, le Sénat n'était pas dans le viseur aussi ?
Non.
Non ?
Il y avait une ambition de réduire le nombre de sénateurs. Après, franchement, toutes ces questions, elles sont un peu historiques, parce qu'il me semble depuis quelques années que cette question n'est plus du tout d'actualité. Et on le voit particulièrement depuis la réélection de 2023. Le Sénat a pris une position,
une importance
et la plupart des grands textes passent d'abord au Sénat avant de passer à l'Assemblée nationale, parce que le débat y est plus serein, plus constructif, et on a moins d'irruptions verbales qui anesthésie la capacité aussi à amender le projet, parce qu'un parlementaire, ça parle, ça amende et ça fait la loi aussi. Et normalement, pour ça, ils font débattre.
Cela dit, la loi part normalement de l'Assemblée nationale, direction le Sénat, et retour à l'Assemblée nationale.
Oui. C'est comme l'amour, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire que...
Très bonne réponse, je trouve.
Bonne réponse de Madame Belle-Père de Loche.
Ça doit être... ça peut partir du Sénat, puisqu'on peut déposer des propositions parlementaires, sénatoriales. Si ça passe et si c'est voté au Sénat, il faut que l'Assemblée nationale reprenne ce texte dans une niche à la main d'un des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Et si les textes sont votés en termes identiques, c'est la loi. Si les termes ne sont pas identiques, il y a une commission mixte paritaire regroupant 7 députés et 7 sénateurs qui convergent ou pas, parce qu'il peut y avoir un désaccord, sur un texte commun. Ça peut également partir de l'Assemblée nationale dans l'autre sens, dans les mêmes termes. Et puis ça peut être une initiative non pas parlementaire. Ça ne s'appelle donc pas une proposition de loi, mais un projet de loi. Ça peut être d'une émanation de l'exécutif. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui, sur son temps d'initiative parlementaire, inscrit à l'ordre du jour au Sénat ou à l'Assemblée nationale un texte et on reprend la même navette.
Mmh. Alors, explique-moi un petit peu, Jean-Michel, parce qu'il y a une loi là, qui m'intéresse fortement, c'est sur la réforme des retraites agricoles. Je crois qu'elle a été votée, mais on attend les décrets, c'est ça ?
Oui.
Les décrets d'application. Une loi ne peut pas être mise en place tant qu'il n'y a pas les décrets d'application, c'est ça ?
Ça dépend, je me trompe. Tu veux dire,
oui. Oui, en pratique.
Ça dépend la manière dont elle est rédigée et ce qu'elle traite, parce que tout ne relève pas de la loi, puisque la loi, souvent, on dit qu'il ne faut pas qu'elle soit trop brouillonne, trop parlante, si je puis dire, puisqu'elle doit fixer un cap. Mmh. Ensuite, cette loi, elle s'impose à l'exécutif. Je rappelle que la séparation entre exécutif et délibératif, législatif, c'est ce principe qu'on n'a pas dans les collectivités locales. Le maire est chef d'exécutif de sa collectivité. Le président de la République ne l'est pas, certainement pas parce qu'il est président de la République, mais le Premier ministre est chef de l'exécutif, mais il n'a pas la main sur la loi, puisque c'est le Parlement. Il y a la séparation des pouvoirs, plus le pouvoir judiciaire, si on va jusqu'au bout, plus le quatrième pouvoir, la presse, etc.
C'est ce qu'on appelle l'état de droit.
Et donc, l'état de droit auquel je suis très attaché. Très très attaché. Voilà, je reviendrai peut-être plus tard sur des déclarations de M. Wauquiez ou d'autres. Je crois que c'est très important d'avoir un état de droit. Donc il y a la séparation des pouvoirs. Donc, ce que peut faire l'exécutif, c'est au titre du pouvoir réglementaire de préciser les termes de la loi pour la rendre opérationnelle. Donc, parfois, effectivement, on a des lois qui sont votées avec un verbiage peut-être un peu trop conséquent. Et derrière, ne sortent pas les décrets d'application, ce qui crée des frustrations. Comme souvent, il y a aussi de la confusion entre une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais qui n'a pas fait la navette et qui n'est pas promulgable, puisqu'elle n'a pas été votée en termes identiques entre les deux parlements, les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, qui forment le Congrès. Et donc, on est dans cette situation un peu particulière. Donc, faut considérer que une loi, pour qu'elle soit applicable, il faut qu'elle soit votée en termes identiques, loi ordinaire, hein, Assemblée nationale et Sénat. Et ensuite, qu'elle soit promulguée par le président de la République, et ensuite, le gouvernement l'exécute. Et pour ça, il a besoin de créer du règlement, donc le pouvoir réglementaire de l'exécutif du gouvernement.
Donc, tu n'es pas là de prendre ta retraite, hein, de toute façon.
Hein, non,
là,
mais
déjà d'entrée, voilà.
C'est un sujet qui est sur la table, quand même.
Et on peut... et en plus, il est bien bronzé et tout. Il n'a pas la tête d'un gars qui va prendre sa retraite.
Tu sais pourquoi? J'ai passé, ça fait 3 ou 4 jours que j'ai passé ma journée à tailler avec Laetitia Allemand.
Ah.
À tailler dans les vignes, tu comprends? Et on prend du
trouve,
soleil.
Je trouve que Laetitia, elle est moins bronzée que toi.
Déjà, tu mets un écran total, Laetitia.
Enfin, ceci étant dit, je prolonge, parce que la question était très sérieuse, il peut y avoir des agriculteurs, notamment concernés, en attente de retraite, qui nous écoutent. Marc Fesneau, interrogé à cette fin il y a 15 jours, a annoncé que les décrets devraient sortir de manière imminente.
Oui, ben ouais, parce que ça fait partie des choses chaudes de l'actualité.
Entre autres. Est-ce que ça sera fait dans le salon de l'agriculture?
Ça serait une bonne idée qu'il annonce, je pense. Ça, peut-être ça fait bon.
On va en parler du salon. Pour l'instant, on continue sur le petit questionnaire que je vous ai préparé au sujet du Sénat. Alors, ça ne s'adresse pas à toi, Jean-Michel, tu ne réponds pas. Hein. Où se trouve le Sénat?
Au Luxembourg.
C'est
au
bien.
Palais du Luxembourg.
Un joli palais d'ailleurs, hein,
avec une belle bibliothèque.
Ça par contre, c'est une question pour Jean-Michel. Est-ce qu'on mange bien à la cantine du Sénat, s'il y en a une?
Oui, on mange
bien. Il y a une cantine et un restaurant.
D'accord.
Et on y mange pas trop mal.
Mais ça se voit parce qu'il se... Bon, à part aujourd'hui, il est un peu fatigué, mais globalement, il se porte bien quand même, notre sénateur.
Non, je suis toujours plus haut
que
l'argent.
Non.
Autre question.
Pourtant, il n'est pas très grand, mais ça va.
Je confirme que je suis toujours plus haut que large.
C'est vrai.
C'est ce qu'il vient de dire.
Autre question. Est-ce qu'on peut y dormir au Sénat, à part dans l'hémicycle, hein?
Je sens que tu commences à amorcer un sujet glissant. Non, il n'y a pas d'hôtel à l'intérieur du Sénat, mais par contre, vous avez...
Non, parce que, tu sais, je t'interromps, tu sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a des bureaux, ils ont des petites lits.
Je vais y venir. Il n'y a pas d'hôtel à l'intérieur du Sénat,
ouais.
Et il y a une faculté pour les sénateurs de pouvoir disposer de ce qu'ils appellent un bureau-chambre.
Ouais.
Grosso modo, c'est une couchette
qui se déploie
dans le bureau. Ouais. Mais c'est toujours un peu gênant, pas pour ce que vous imaginez, je vois tous rire. Mais parce que bien souvent, un sénateur a un collaborateur ou une collaboratrice, et c'est quand même compliqué de gérer fonction de travail, une fonction
de... Un bureau et en même temps la petite chambre. Quoi.
Exactement.
Le travail de nuit doit être énuméré en plus.
Ouais. Voilà. Mais tu as un bureau?
J'ai un bureau.
Et avec une couchette ou pas?
Non.
Non. Donc, t'as pas pris l'option couchette.
Et tous les sénateurs ont un bureau.
Et moi, je l'ai visité.
Oui.
Bien sûr.
J'ai visité ton bureau.
Ah, très bien.
J'ai été reçu par un de tes attachés parlementaires.
Et Yohann Diatché.
Qui est fort sympathique et qui connaît tout l'historique du Sénat.
Hein. Allez, on va passer à une info qui, maintenant, toujours en rapport au Sénat, a choqué pas mal de Français. Tu vas pouvoir nous expliquer l'augmentation de 700 euros par mois de l'avance de frais de mandat. Hein. C'est exactement ça, hein, le terme. Une décision prise pour tenir compte des conséquences du contexte inflationniste. Les sénateurs avaient donc décidé cette augmentation de 700 euros par mois d'avance de frais de mandat. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement de quoi il s'agit?
Je vais répondre de manière purement technique parce que sur l'aspect politique, chacun peut se faire son idée. Et je ne veux pas entrer dans des polémiques d'une nature ou d'une autre, sachant que je n'ai, en ce qui me concerne, décidé de rien sur le sujet, mais que je ne considère pas comme totalement choquant l'idée qu'une partie de l'inflation constatée depuis 2018 puisse être corrigée par une augmentation de l'avance pour frais de mandat, qui, je vous le rappelle, sert à exercer ses missions, à se déplacer, à payer le carburant de sa voiture, à amortir les frais kilométriques, etc., etc., payer les frais de péage. Donc, il y avait, de mon point de vue, une hausse avec 700 euros, c'est de l'ordre de 11% sur une inflation globale constatée de 18%. Donc,
après... Mais pourquoi les parlementaires, les députés, c'est 300 euros et les sénateurs, c'est 700? Et l'inflation est la même pour les uns et pour les autres?
Parce que le mode de calcul et le niveau d'AFM n'est pas le même pour les députés et pour les sénateurs, et qu'il y a régulièrement une révision annuelle constatée chez les députés, ce qui n'avait pas été le cas depuis 2018, depuis l'instauration suite aux affaires... Cahuzac et compagnie, il y avait eu donc une modification des conditions d'exercice du mandat. Il était mis en place également un contrôle, je parle pour le Sénat, pas pour l'Assemblée nationale, je ne connais pas le détail, contrôle des frais de mandat avec enregistrement sur une plateforme sécurisée, avec un contrat de prestation payé par l'institution sénatoriale auprès de commissaires aux comptes qui vérifie tous les comptes déclarés pour l'allocation de frais de mandat de tous les sénateurs. Donc on est passé au peigne fin et tout est contrôlé et tout est remboursé quand il y a effectivement un écart à la règle pour peu que ça se produise. Donc après j'entends aussi l'ambiance d'inflation, l'ambiance globale. Quand on prend le chiffre brut comparé à ce que je viens de dire, bon, ça peut susciter un débat. Et je suis totalement conscient que ce débat est naturel dans un pays qui se veut démocratique, et heureusement qu'il a lieu.
Il y a des déontologues, c'est ça aussi ?
Oui, des déontologues. On est contrôlé, hein, et à juste titre, parce que je pense que la politique mérite...
C'est l'argent public. Hein.
Mérite l'exemplarité.
Puis le budget du Sénat est complètement indépendant, je crois.
Ça, c'est un principe républicain, selon le principe de séparation des pouvoirs. Le budget du Sénat est indépendant, il a son propre régime de retraite.
Voilà, oui. Qui est largement positif, je crois.
Il est positif parce que, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que quand on avait un Sénat qui, pendant des décennies, était un Sénat plutôt de l'ordre, si vous voulez, en version française, c'est-à-dire des gens qui terminaient leur vie politique ou parfois leur vie professionnelle, parce qu'on avait quand même beaucoup de gens venant du monde des affaires. Je vous rappelle que dans les Hautes-Alpes, on a eu le baron de Rothschild qui a été sénateur, ça veut dire des choses. C'était pas un haut-alpin, c'était pas un fils de paysan qui avait l'adhérence comme moi. C'était d'autres styles, et il venait finalement chercher le Graal, la reconnaissance, à travers un mandat dans une assemblée qui n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui. Et donc il y a des fonds de réserve qui ont été constitués de leurs 300 millions d'euros pour le fonds de retraite, ce qui fait que malgré cela, le Sénat, et c'est bien naturel, a consenti à modifier le régime de son... d'attribution des retraites pour ses parlementaires. Et un mandat de parlementaire effectué dans sa totalité donne droit à partir dorénavant de 64 ans à une retraite d'environ 1800 euros valorisée éventuellement par le quotient familial au nombre d'enfants que vous avez eu. Donc c'est loin d'être significatif quand je vois la retraite des agriculteurs tout au long d'une carrière. Mais en même temps, je le dis avec... mesure, et j'espère avec les mots qu'il faut pour ne pas être incompris, il y a un sénateur dans les Hautes-Alpes, il y en a 348 en France, et ils font aussi partie des institutions de la République. Et si on veut éloigner le risque de corruption des parlementaires, le risque d'influence de tiers et éventuellement de rétrocommissions diverses et variées, y compris dans des institutions importantes comme le Parlement européen, on a vu qu'il y en avait, avec des puissances ennemies, je dis le mot, hein, du Qatar d'ailleurs, quand on voit le jeu des Russes, des Chinois et compagnie, je pense que être rémunéré quand on est parlementaire, indemnisé correctement comme un cadre supérieur, parce que c'est à peu près ça, je trouve que c'est aussi une façon de tendre, de mettre à distance les risques de corruption et être d'autant plus implacable quand il y en a.
On va parler de l'agriculture. Ah bah oui, quand même. Bah
nous sommes là pour ça.
Eh oui.
Enfin, nous sommes quand même trois. Hein.
C'est notre premier sujet. Oui, entre Laetitia,
Bruno et Jean-Michel.
Jean-Michel, il n'est plus agriculteur quand même.
Bah oui, mais enfin...
Encore un peu.
C'est quand même son...
Tout petit peu.
C'est le métier de base.
Ben oui. Oui.
C'est le métier de base.
Ben moi aussi, alors j'ai été agriculteur, hein.
Ouais, qu'est-ce que t'as fait?
Ben moi j'étais...
Ah si, toi t'as été gauler les noix, toi. Ah, c'est ça.
Moi je suis originaire.
D'une
vallée qui s'appelle le Val Godemar.
Mais c'est pas ça être agriculteur. On va parler du statut, parce que Jean-Michel, malgré ses nombreuses années de politique ou de responsabilité que dans les collectivités, à payer des cotisations sociales en tant que chef d'exploitant.
Exactement.
Chose que tu n'as pas fait. Non. Peut-être que tu étais aide familiale ou cotisant solidaire à la MSA,
je travaillais au noir pour mon grand-père.
Ah ben ça va être beau pour un type de gauche.
C'est beau.
Ah ben c'est
pour un mec de la CGT. Bravo.
Il y a des dossiers à sortir là.
J'étais jeune à l'époque.
C'est du propre. Bon, en tout cas, moi, je remercierai jamais assez les cultivateurs qui m'ont permis de connaître les joies de la nationale pour faire Gap Marseille. C'est quand même pas de bol, hein. Le jour où Renaud Muselier présentait ses vœux à la presse, bim, autoroute bloquée. Les vœux étaient à 11h45. J'ai calculé large. Je suis parti à 7h de Gap. Je suis arrivé à 11h30 à Marseille.
Pour l'apéro. Mais tu te plains de quoi?
Pour l'apéro. C'est joli, la Brianne, hein. Hein, ah, c'est joli. Émergue, quel cachet. Poula. Bon, c'est pas tout ça, il a fallu revenir. Hein. Eh ben, j'ai fait mieux. J'ai gagné une demi-heure, j'ai mis que 4 heures pour revenir. Bref, on est toujours sur ce problème en France, hein. C'est que pour revendiquer, bah, faut faire chier son voisin. On a le même cas avec la SNCF aujourd'hui, enfin aujourd'hui, je veux dire tous les ans, plusieurs fois par an, depuis sa création, mais ça, on en parlera tout à l'heure, hein, de nos cheminots. Arrêtons-nous sur les agriculteurs, voilà une profession qui est sous perfusion depuis des années. Moi, j'ai l'impression que la crise est infinie. Je me souviens, j'ai 2016, Valls, ça a été un beau bordel, mais moins chiant, hein, parce que en fait, c'était arrivé quelques jours après les vœux de Renaud Muselier, donc j'avais pas été bloqué. Alors, pour vous dire, 700 millions d'euros pour soutenir l'élevage, plus de 600 millions d'allègements de charges et de reports de taxes, ça c'était ce qu'Emmanuel Valls, Manuel Valls, avait décrété en 2016. Je vous ai envoyé les différents chiffres, hein, vous les avez vus. En 2020, la France métropolitaine comptait 389 800 exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu'en 2010. La taille des exploitations continue d'augmenter. Le nombre d'élevages, lui, se réduit plus fortement que celui des exploitations à dominante végétale. Donc on peut comprendre qu'il y a un problème. On peut comprendre que les agriculteurs soient en colère. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est leur cible. Ils ciblent le gouvernement. Moi, j'ai le sentiment que la cible, ce serait plutôt l'Europe. Alors, peut-être que je me trompe, mais vous qui êtes dedans, est-ce qu'on se trompe de cible? Est-ce que le gouvernement français n'est pas un petit peu pieds et mains liés avec notamment la PAC, par exemple, et puis toutes les aides qui sont apportées de l'Europe?
Les aides représentent beaucoup dans le revenu de l'agriculture, mais les gens, ils sont surtout aujourd'hui en colère contre les mesures franco-françaises et la mise en place de ces mesures-là, des directives européennes qui ne sont pas forcément appliquées dans les autres pays, mais qui le sont. Je prends l'exemple, par exemple...
Tu veux parler d'un excès de zèle de nos gouvernements?
Oui, tout à fait, ouais. Je prends l'exemple, par exemple... il faut savoir que le mouvement qui a démarré, il n'a pas été maîtrisé par le syndicalisme agricole au départ. C'est vraiment la base qui est sortie dans la rue et qui a bloqué.
La base qui est partie de l'Europe, hein, qui est partie d'Allemagne au départ.
Voilà, hein. J'allais y venir. C'est pas parti d'Allemagne, c'est parti des Pays-Bas.
Et ensuite, c'est descendu en Allemagne.
C'est parti des Pays-Bas. Parce que les agriculteurs hollandais, ils sont sous la menace d'une directive nitrate qui a été mise en place dans les années 2000 en France, même avant, puisque le premier PMPOA date des années 95 ou 96. Mmh. Les Pays-Bas ne les l'ont jamais appliqué. Mmh. Pourtant, c'est des fervents adhérents à l'Europe. Mmh. Ils n'ont jamais appliqué la directive azote. Ils en ont même créé un ministère. Ministère de l'Agriculture. Nous, c'est ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Chez eux, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Azote. Parce qu'ils ont un réel problème. Vous connaissez la géographie des Pays-Bas, avec les polders, etc. Ils ont un vrai problème. Ils n'ont jamais appliqué ça. Donc, mais par contre, en France, je vous le dis, moi, j'ai un programme PMPOA, ce qu'on a appelé programme de maîtrise des pollution d'origine agricole, PMPOA 1 et PMPOA 2 en 98, ça date de 98. Mmh. C'est la même directive. Mmh. Alors quand on parle de distorsion de concurrence entre les États, c'en est une. Tu vois, c'en est une. Il y en a d'autres aujourd'hui sur les produits phytosanitaires interdits en France, autorisés dans d'autres pays.
En Pologne.
Et des exemples comme ça, on peut en prendre en pagaille. Il y a, par exemple, sur le bio. Il y a le bio européen qui est plus souple que l'agriculture biologique, le logo AB en France. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Il y a bien sûr le social, puisque Jean-Claude, on peut en parler du social. Ou Laetitia, elle le connaît aussi bien que moi, ou même Jean-Michel. Quand il faut embaucher un vendangeur, un tailleur, un ramasseur de pommes ou autre, ou quelqu'un qui travaille dans le maraîchage, on n'a pas du tout le même statut social. Et c'est aujourd'hui, si on perd des maraîchers, si on perd des arboriculteurs, c'est parce que ces gens-là ne sont plus compétitifs, ne serait-ce que vis-à-vis de la main-d'œuvre, des charges qui sont liées à notre politique sociale en France. Moi, je l'ai toujours dit ici, on a fait l'Europe, mais on n'a pas fait l'Europe sociale.
Tu es en train de nous dire que cette directive là-bas, donc ils voulaient la faire passer, et c'est pour ça que les agriculteurs sont montés au créneau, donc aux Pays-Bas.
Oui, ça a commencé par là. Après, les Allemands ont pris le relais, les Espagnols sont et les Français sont descendus. Mais, comme, je
mais
le
pas
redis,
pour la même chose.
Pas pour la même chose, sur d'autres choses.
Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous, en 98, on n'a rien dit, on n'a rien fait. On a dit amen donc, à cette directive européenne qui était appliquée chez nous. Et que, bah, visiblement, aux Pays-Bas, les Hollandais ont dit non, on ne veut pas l'appliquer.
Bah, ils l'ont appliqué avec plus de...
De souplesse.
Les agriculteurs français, Karine Le Marchand le faisait remarquer sur une émission, mais j'ai trouvé ça très pertinent. Elle dit on a toujours été les bons élèves, en fait. On nous a dit le remembrement, on change complètement notre façon de produire, il faut produire en grande surface, etc. On a suivi. On nous a dit qu'il faut aller vers les normes environnementales, on a suivi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de malaise et de ras-le-bol. Je pense que la première des revendications en France, en tout cas de ce que moi j'en perçois, hein, j'ai rencontré des gens dans tous les syndicats, etc. La première des revendications, c'est de pouvoir vivre décemment de son métier, ouais, déjà. Parce que tu parlais des aides, mais en fait, finalement, on nous reproche souvent de toucher des aides, mais un agriculteur qui ne serait pas aidé, qui pourrait vivre décemment de son travail, serait bien plus heureux comme ça.
Mmh. Le problème, c'est que les aides, ça fait des années et des années et des années qu'il y a des aides, quoi. Les aides, ça ne date pas d'aujourd'hui,
mais
ça a toujours
les aides,
été.
Elles ont été là pour que le panier de la ménagère soit toujours le plus bas possible et le plus accessible possible et que les gens, soient, depuis la Seconde Guerre mondiale, soient correctement nourris. Le problème, c'est qu'à la sortie de la guerre, 50% du budget d'un ménage était consacré à l'alimentation, le reste à son habitat. Mmh. Aujourd'hui, on est en au-dessous de 14, 15, 16%.